amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode de Cheminons dans la transition, l'émission en partenariat entre Radio Fil de l'eau et Ligiet, l'association L'Île Jourdain en transition. On avait eu un premier épisode au mois de juin 2024, c'est le second, toujours avec Cinzia et Silvano. Bonjour à tous les deux, comment ça va?
Ça va.
Ça va en forme? Ouais.
Ouais.
Prêt pour cet été?
Oui.
Un bel été qui arrive, espérons hein, pour l'instant avec une météo relativement particulière. On a eu une année d'automne. Écoute, on s'y adapte, on s'y fait. L'automne arrive bientôt, alors qu'on l'a jamais vraiment, quitté. Donc pour ce deuxième épisode aujourd'hui, donc voilà, pas de newsletter hein, pour l'été, donc du côté de Ligiet, voilà, on se repose un petit peu aussi hein, du côté de l'association et du coup un dossier, un sujet qui sera le thème de cette émission. De quoi on va parler pour cette seconde émission, les amis?
On va parler de l'eau.
D'accord.
Mais, parlant de la newsletter, donc la Gazette.
Ouais, la Gazette de Ligiet.
Elle est juste pas publiée, on l'a pas reçue à temps.
Ok, d'accord. Ah, ok, donc il va y avoir oui. Quand même du coup la Gazette cet été. Ok, d'accord, c'est moi qui avais mal compris l'information. Donc il y aura bien la Gazette cet été, donc on ne se repose pas du côté de Ligiet et on charbonne aussi pendant tout l'été. Donc l'eau, ça va être aujourd'hui ouais, le gros sujet du jour, mais voilà, vous allez nous l'amener sous différents formes. Ben, je vais vous laisser la parole de toute façon. Par quoi on commence, de quoi on parle, comment on parle de l'eau pour cette émission-là?
Alors, d'abord, j'avais envie de vous lire un texte un peu en introduction. Et puis après, on parlera surtout des 7 cycles de l'eau.
D'accord.
Et comment chacun, on peut faire en sorte de garder l'eau, en fait, de cultiver l'eau.
C'est bien dit, parce que c'est vrai que l'eau, on sait que l'eau ne pousse pas sur les arbres. Alors, comment est-ce qu'on cultive? Comment est-ce qu'on cultive l'eau? Ça va être un petit peu le sujet du jour. Effectivement, l'eau qui est un sujet dont on parle régulièrement et dont il faut parler, parce que ce n'est pas une ressource inépuisable, malheureusement. Donc voilà. Et bien, écoutez, je te laisse la parole, Cinzia, pour cette lecture, pour commencer cet épisode de Cheminons dans la transition.
Donc, ce texte est tiré de Bienvenue en Saint-Tropie d'Anaël Théry. H2O. Dans le ventre de sa mère, un fœtus est constitué à 90% d'eau, et nous, adultes, de 70%. Cette eau que nous buvons, qui aujourd'hui nourrit nos cellules et nous fait vivre, assouplit nos muscles, nous permet de transpirer. Cette eau-là vient du début du monde. Elle a passé tous les âges, à côtoyer les premières cellules, frôler les écailles des monstres marins et les éclairs dorés d'un nombre incontable de poissons. Elle a constitué les dinosaures et les insectes géants. Elle a dormi dans les glaciers et les nappes souterraines, dévalé tous les torrents et tous les fleuves du monde, passé toutes les tempêtes. Elle a formé les grottes, goutte à goutte, traversée et nourrie des milliards d'organismes vivants de végétaux et d'animaux. Tous nos ancêtres. Et elle se trouve aujourd'hui en nous, de passage. C'est bien peu dire que l'eau est un bien commun. Nous sommes tous et toutes constitués de vers et habités par l'eau. Dans notre monde aujourd'hui, l'eau est cotée en bourse. Tandis que les polluants éternels ont contaminé jusqu'à l'eau des plateaux himalayens et de l'Antarctique. Sur toutes les latitudes, la guerre de l'eau est une réalité quotidienne et géopolitique. La fonte accélérée des glaciers et l'augmentation du niveau de la mer, les violentes inondations et les sécheresses, les extrêmes de température modifient très rapidement le paysage mondial et vont accentuer les déplacements massifs de population dans les proportions gigantesques. Le poids de l'eau accumulé dans près de 160 000 barrages situés principalement dans l'hémisphère nord est allé jusqu'à dévier légèrement l'axe de rotation de la Terre. Si on se représentait toute l'eau du monde dans une baignoire, alors seulement une cuillère à soupe de ce volume serait de l'eau douce. Notre civilisation, au sommet de l'évolution, utilise cette eau-là pour tirer la chasse.
Quelle belle conclusion. Belle, je ne sais pas en tout cas, mais en tout cas, quelle conclusion imagée. On l'a bien, ouais, effectivement. Donc voilà, pour introduire cet épisode sur l'eau de Cheminons dans la tradition, donc cette lecture de texte, ben je vais vous laisser voilà continuer, prendre en main la manière dont vous voulez que cette émission se déroule sur le sujet, donc sur le sujet de l'eau et les sept cycles dont tu nous parlais tout à l'heure, Cinzia. Qu'est-ce qu'on peut dire, par quoi on commence du coup après cette lecture?
Et ben on va commencer par des chiffres,
okay.
pour remettre sur des bases. Donc on a en tout sur la Terre 97% d'eau salée.
D'accord.
Donc et 3% d'eau douce.
Donc oui, c'est ça, mer et océan forcément, oui. Principalement.
Et dans ces 3% d'eau douce, 65% sont des glaciers, 13,5% sont dans les nappes phréatiques de à une profondeur de plus de 10 mètres. Mmh. Et des nappes phréatiques. Et 11% sont dans des nappes phréatiques de plus de 10 mètres,
okay.
De profondeur. Non, de moins de 10 mètres.
De moins de 10 mètres, du coup, ouais.
Oui. Et quand on parle justement de sécheresse des nappes phréatiques, on parle surtout de celles qui sont de moins de 10 mètres.
Ok.
C'est vraiment
les plus proches de la surface. Voilà. Les plus proches de la surface, ok.
Après, on en a 0,3% en lacs et étangs. Il y a 0,06% dans les sols, 0,035% dans l'atmosphère et 0,03% dans les rivières.
Ouais, donc on est sur des chiffres quand même relativement révélateurs de l'eau sur la planète. C'est de l'eau sur la planète, comme tu me disais, déjà 97% d'eau salée. Ça fait un énorme pourcentage. Et dans les 3% qui restent, au final, on voit qu'on a peu d'eau, comment dire, exploitable, si on peut le dire comme ça. Donc effectivement, ça fait pas beaucoup.
Oui et non, mais vu qu'on l'énormité de d'eau salée, l'énorme quantité d'eau salée, et vu qu'on parle de totalité, ça veut dire que aussi la quantité d'eau douce est énorme aussi, mais
bien
plus
sûr.
Petite.
Mais c'est ça, en fait, c'est toujours la différence entre parler de pourcentage et après de chiffres entre guillemets réels.
Oui.
C'est ça, parce qu'on est quand même sur une planète où, effectivement, voilà, tu le disais, les océans et les mers sont immenses, etc. Donc, au vu de la taille de la planète, ça en fait beaucoup, mais c'est ça, quand on prend après en pourcentage, ça revient pas tant que ça, quoi, au vu du total, quoi.
Je rappelle que 30% du globe c'est de la Terre.
C'est ça, il y a 70% d'eau déjà, rien que ça, sur la Terre. Et moi, ce qui m'a surpris dans ces chiffres-là, c'est ça, quand tu parles d'eau douce, c'est en fait que ça comprend et les glaciers et tout ça. Donc voilà, quand on parle d'exploitable, effectivement, il n'y en a pas énormément en pourcentage, quoi. Ok.
Après, là, je vais vous parler des consommations d'eau, mm-hmm. Donc, que nous, humains, on consomme. Il y a une 73% dans l'agriculture.
D'accord.
21% dans l'industrie et 6% dans les ménages, dont 2% de l'eau de ces ménages dans les toilettes.
Ouais, ça c'est quand même, enfin moi c'est quand même quelque chose qui me choque encore souvent de se dire qu'on est dans des pays où on pisse dans l'eau potable, ça c'est impressionnant quand même. Donc un énorme pourcentage, un chiffre qui me surprend, c'est ça, c'est que par rapport à l'agriculture, alors je me doutais bien que c'était la partie qui utilisait le plus d'eau forcément, mais je pensais pas que le pourcentage, encore une fois quand on revient au pourcentage, était aussi élevé, qu'on a plus de 70% juste pour l'agriculture. C'est vrai que c'est énorme. T'as d'autres chiffres à nous donner, Sylvain?
Non, donc on va passer après sur les premiers cycles.
Okay.
Que je m'en occupe.
C'est toi qui gères le premier cycle. Et ben, long pour le premier cycle, c'est ça. Donc voilà, il va y avoir, comme on disait en début d'émission, hop, la description donc de ces sept cycles de l'eau. Et donc Sylvano, tu commences par le premier, je t'en prie.
Donc chaque cycle, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment dire ça tous des cycles. Je parle de mots, du mot de base de cycle.
Littéralement parlant.
Voilà, qui est donc roue.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui revient, un cycle.
Oui.
Quoi, hein,
d'où, par exemple, monocycle.
Tout à fait. Le tricycle, fameux.
Aussi. Donc, on n'aura pas toujours cette, cette base tournante, on peut dire.
Oui, d'accord. Oui, forcément, c'était plus simple de dire peut-être les 6 cycles de l'eau pour ne pas partir dans des définitions trop longues.
Voilà.
Mais voilà, c'est ça. Certains ne seront littéralement pas forcément associés au mot cycle, mais voilà, c'est compris dans ces 7 cycles-là.
Donc, le premier cycle, c'est donc l'arrivée de l'eau sur Terre, qui a plusieurs origines possibles, l'eau. Bon, déjà, on doit... Je me dois de mettre les bases, qui sont que l'oxygène et l'hydrogène ne viennent d'étoiles explosées.
Ok.
Donc, pour vous faire un petit point dessus, les étoiles, quand elles meurent, dégagent un petit peu de chaque atome, mm-hmm. de tout le tableau de Mendeleïev.
Ok.
Donc, c'est comme ça que les premiers atomes d'oxygène ont pu se libérer. Je ne sais pas si c'est dans ces sites, dans une explosion d'une étoile, que la formation d'une pression donc des molécules d'hydrogène et d'oxygène ont pu se mélanger pour faire l'eau. On ne sait pas vraiment.
On n'est pas astrophysicien non plus, hein, quand même. On a quelques bases sur l'eau, mais on n'est pas des astrophysiciens non plus. N'est-ce pas, hein ? Une pensée pour Hubert Reeves.
Et donc... il y a plusieurs possibilités pour que soit arrivé sur Terre. Mmh. Donc, soit par des météorites. Nous, on les oublie quand même assez souvent, mais les météorites et les comètes sont en fait des grosses réserves d'eau.
Des énormes puits.
Oui.
Des puits spatiaux. Je ne sais pas comment on peut les définir, d'accord ? Je ne savais pas, ouais, ok.
Certains ont eu l'idée d'utiliser justement des météorites ou des astéroïdes pour dans le but de faire quasiment des stations-service spatiales.
Ok, des stations-service d'eau.
Pas seulement d'eau, mais pour l'exploration spatiale. Il y en a qui ont eu l'idée d'utiliser comme idée. Ça. Il est particulier, mais ou bien, justement, comme je disais plus précédemment, il y avait plein de gaz déjà au début de l'univers. Donc, c'est possible que pendant la formation de la Terre, elle ait récupéré tous ces gaz et dans une pression, je ne sais laquelle, ça a formé l'âge d'eau qu'on connaît.
D'accord. Ouais.
En une grande quantité, quand même.
Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr.
Et pour... voici donc les possibilités d'arriver de l'eau sur Terre.
C'est ça, parce qu'on n'y était pas. On n'y était pas. Ok.
Donc après, bah, y a le cycle 2, qui celui-là, bah, on le connaît tous. Donc c'est les océans qui s'évaporent, qui laissent le sel en bas. Hein.
Oui, c'est ça. Si c'est un peu trop lourd.
Après, donc, bah, y a la condensation, à partir de 2000 mètres, qui donc va aller rendre l'eau sous son état liquide, mmh. qui va donc par les vents se balader. Et après, il va donc avoir un ruissellement de... Donc, qu'y a-t-il ?
Il faut qu'elle tombe avant ton eau.
Oui. Mais je pensais par ruissellement que ça tombe aussi.
Ça marche.
Donc à ce moment-là, justement, dans le ruissellement, ça va faire deux choses. Alimenter les cours d'eau et aussi les sols et nappes phréatiques.
Dont on parlait tout à l'heure, oui. Les fameuses...
Après, bah, les cours d'eau, comme vous le savez, ramènent à l'océan. Et là, c'est de ce que je connais des cycles, cet cycle... C'est à peu près le seul cycle qui fait vraiment une roue.
C'est ce que je veux dire. Là, quand on parlait de définition de cycle tout à l'heure, là, on est vraiment sur quelque chose. On part de l'océan ou de la mer, la condensation, là-bas, via les vents, etc., les ruissellements, l'eau tombe, ce qui fait qu'elle retombe soit dans les nappes phréatiques, soit du coup dans les cours d'eau, etc., et elle retourne dans l'océan. Là, on est vraiment dans la définition littérale du cycle.
Bah après, je laisse à ma mère pour...
c'est Cynthia qui prend le relais.
Donc, le troisième cycle, c'est celui des rivières volantes. Alors,
d'accord.
J'explique. En Amazonie, il y a 80% d'évaporation qui est due à la transpiration des végétaux. Mmh. Donc, et il y a aussi un vent d'est en ouest. C'est ces 80% d'évaporation vont créer un nuage. Le vent d'est va les emmener à 500 km.
Okay.
Ils vont retomber sur une autre forêt qui elle-même va faire évaporer 80% de son humidité et ça va repartir comme ça. Et le cycle va pouvoir se répéter 5 à 6 fois, c'est-à-dire jusqu'à la Corrière des Andes.
D'accord.
Et c'est pour ça que jusqu'à la Corrière des Andes, c'est plein de vert. Et derrière les montagnes, c'est le désert. Okay. Parce que du coup, ça ne passe plus. Et en Europe, on avait aussi ce phénomène-là. Mais là, c'était avec un vent d'ouest vers l'est, qui allait donc jusqu'à l'est de la Russie, avant qu'on décime des forêts.
D'accord.
Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des forêts. Alors, ce phénomène est appelé le phénomène des pompes biotiques et il a été mis en évidence par deux scientifiques russes qui s'appellent Anastasia Makarieva et Viktor Kioskov.
Quel accent!
Et ils ont mis aussi en évidence le fait que par les effets de condensation et de dépression atmosphérique, en fait, les grands vents sont créés par les forêts. Donc, c'est quand même super important parce que du coup, on se voit que si on plante des arbres, on peut et rétablir le sens des pluies, enfin beaucoup plus de pluie et d'humidité, et aussi créer les vents qui vont favoriser la vie, quoi. Donc, pour ça, enfin voilà. Donc, ça s'appelle les rivières volantes.
Les rivières volantes,
parce
ce terme est génial.
L'évaporation se balade.
Et oui, c'est et ça se promène. Voilà. C'est génial.
Le quatrième cycle, ça vient des spores des champignons. Alors, pas que, mais d'abord, le champignon, juste avant l'orage, on ne sait pas pourquoi, il rejette des spores.
D'accord.
Par un système d'air, le spore va monter jusqu'au nuage et il va se charger d'eau une fois là-haut et il va retomber. Enfin, l'eau va se lâcher soit sur place parce qu'il n'y a pas de vent et s'il y a du vent, ça va l'emmener à 3-4 km plus loin. Et avec les arbres, on a ce même phénomène parce qu'eux rejettent ce qu'on appelle un composé organique volatile. C'est pas de la graine, on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, mais ça a le même principe de ça va monter dans le nuage, ça va charger d'eau et ça va libérer de l'eau un peu plus loin. Donc c'est vraiment impressionnant en fait quand on pense à ça. Et le cinquième cycle vient de la condensation de la rosée. Alors la condensation, c'est l'accumulation d'eau dans les parties plus froides. D'accord. Et on a vu qu'avec 50% d'humidité, quand on a un taux d'humidité de 50%, à 20% de degrés, à 20 degrés Celsius, je vais y arriver, on a de la condensation à partir de 12 degrés.
Okay.
D'accord. Et à 40 degrés, il faut une surface de 28 degrés pour avoir la condensation. Et donc, dans un arbre, il va y avoir des espaces qui vont être dans ces hauteurs et qui vont avoir cette chaleur. Et plus bas, on va avoir cette température qui est bonne pour la condensation. Donc, l'eau de l'évaporation va descendre dans les feuilles plus basses et ça va aspirer l'eau et les ramener aux racines. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon fils sur son histoire que les cycles n'existent pas. Parce que finalement, ça repart quand même à la terre et ça tourne et...
J'ai dit qu'il me semblait que c'était le sol. Il me semblait.
Bref.
Petite erreur d'appréciation.
Et du coup, une forêt, donc elle va avoir 80% d'évapotranspiration par rapport... Enfin voilà. Et une prairie, simplement 20%. Donc, on voit vraiment l'importance d'avoir une grande variété d'arbres avec différentes hauteurs parce qu'en fait, c'est ça qui va favoriser l'humidité. C'est le fait d'avoir des multi-usages, étages, et donc d'avoir des arbres de toutes les hauteurs qui vont permettre de faire jouer cette condensation et de nourrir de nourrir à partir de l'évaporation, simplement. Et donc, le type qui a fait, dont je donnerai les sources après...
Ça marche.
Il a une forêt-jardin comme ça, et au plus fort de la canicule, il avait remarqué qu'avec ses multi-usages et cette façon de faire, il avait 2 à 4 mm d'eau par jour, au plus fort de la canicule. Donc, il n'y avait pas d'eau qui tombait, c'était simplement le système.
C'est fou.
Donc, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur des phénomènes tels que les forêts-jardins ou la syntropie, ou toutes ces façons de cultiver qui vont prendre soin des sols, qui vont prendre soin de la hauteur et qui vont favoriser l'évapotranspiration de manière à moins gaspiller d'eau. Voilà. Le sixième cycle, c'est le feu. Alors, aussi bizarrement que ça puisse paraître, en fait, c'est encore le principe de la condensation. C'est-à-dire que... Après les incendies en Australie, les arbres ont dégagé des composés organiques volatiles, d'accord ? Et ça a créé des nuages orageux.
D'accord.
Le manque de peau, c'est que ça a fait des orages plus loin qui ont aussi déclenché des incendies. Bon, ça c'était...
La petite boulette.
Les aléas de la nature et du vent, du
voilà.
coup.
Voilà. Alors, du coup... En fait, il y a une équation chimique. Donc, le glucose plus de l'oxygène, ça va donner du... Donc, ça, c'est l'équation chimique de la combustion, en fait.
Okay.
Qui vont donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, à partir de la combustion, il y a une nouvelle eau qui se crée.
OK.
Voilà. Et bien sûr, il y a des scientifiques qui ont réfléchi
bien sûr,
là-dessus.
Hein. Évidemment. Oui, ce qu'ils vont dire sur ces, on va le dire juste après. Hein, on ne s'est pas levé un matin. Voilà, c'est,
non, il y a des références et voilà. Et le septième cycle, c'est la photosynthèse. Donc là, c'est l'équation inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone plus l'eau donne du glucose et de l'oxygène. Et ça va créer une sève brute qui va descendre dans les racines. Et donc, quand je regarde ces sept cycles, ce que je vois, c'est qu'il est vraiment important de prendre soin de nos forêts et que nos forêts soient réellement des forêts. C'est-à-dire avec des variétés d'arbres différentes, avec des hauteurs différentes, de manière à ce qu'elles puissent être vraiment un sol vivant et que ce ne soit pas juste...
Oui, un arbre replanté par-ci, par-là, oui. Ou enfin composé de manière humaine, on va dire, une forêt, en laissant tant d'espace entre les arbres.
C'est ça, et puis surtout qu'il soit de la même espèce.
C'est ça,
et que,
forêt de chêne, forêt de cidre.
Voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis du coup, planter des arbres aussi. Et ce que j'aime aussi en apprenant ces sept cycles de l'eau, c'est de voir aussi comment moi, dans mon jardin, je peux transformer les choses. Plutôt que d'avoir les rangs comme ça de petites plantes, on peut penser les choses...
Façon permaculture un petit peu, voilà. Quoi, laisser faire tout se mélange, que lui pollinise lui, qu'elle pollinise, etc. Et que ce soit fait de manière naturelle, en fait, qu'on laisser vivre un petit peu. Ouais.
Oui, il y a vraiment tout ça. Il y a faire les associations entre les plantes, mais il y a aussi cette idée de différentes hauteurs et de différentes espèces pour que la nature puisse revivre. Je vous invite à aller au jardinodrome où il y a justement tout un espace qui se fait en syntropie et on voit justement toutes les plantes de toutes les hauteurs et c'est vraiment sympa.
Resitue-nous le jardinodrome, s'il te plaît, s'il y a pour ceux qui ne le situent pas. Où
le jardinodrome se trouve à côté du stade de rugby. Et puis, il y a le boulodrome. Et c'est là où il y avait l'ancien vélodrome.
C'est ça, l'ancien vélodrome, ouais, là où il y avait eu le festival Le Chemin des Possibles l'année dernière, la fête des possibles.
La fête des possibles, ouais, exactement. Dernière.
Au vélodrome, ouais, ok. Donc voilà, n'hésitez pas, mais on connaissait, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'on connaît l'importance des arbres par rapport à l'oxygénation de la planète, etc. Ça, c'est quelque chose dont on nous parlait énormément et voilà, je pense que ça, c'est bien acquis pour certains, en tout cas, hein, bien évidemment. Mais on connaissait pas aussi l'importance justement pour les cycles de l'eau et pour voilà, le fait de pouvoir arroser un petit peu les racines via les différents systèmes d'évaporation, de condensation, les rivières flottantes, volantes, les rivières volantes et tout ça. Donc effectivement, c'est des choses qu'on a beaucoup moins en tête.
Mais aussi pour le d'un point de vue jardinage, il y a aussi des Zoya ou des wicking beds qui donc permettent de garder l'eau.
Si d'accord. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est qu'un Zoya ou qu'un wicking bed?
Un Zoya.
En quelques mots. Hein,
oui. Si j'ai bien compris, un Zoya c'est une quantité, c'est un objet en terre.
D'accord.
Que tu remplis d'eau et que tu poses donc juste à côté de la plante et qui va
et
goûter.
Qui diffuse. Ah d'accord, qui goûte. Ok. Ce que je connaissais, moi, les pots un petit peu que tu mets en terre et qui sont un petit peu troués, tu sais, et qui du coup et qui diffusent diffuse l'eau petit à petit. Donc ça, c'est un Zoya. C'est comme ça qu'on le prononce. Oui, c'est un Zoya. Ok. Et wicking bed, tu as dit.
Wicking bed, en fait, c'est des gros bacs.
D'accord.
Mais à l'intérieur, c'est tout est pensé pour conserver l'eau en fait.
D'accord, ok. Donc c'est vraiment des manières de retenir l'eau un petit peu, de pouvoir la diffuser, hein, de pouvoir la diffuser petit à petit quoi.
Mais je vous conseille quand même d'aller au Châtenaudrome où ils ont des.
Il y a tout. Allez voir par vous-même quoi. C'est ça, allez voir par vous-même.
Où il y a justement des wicking beds et des Zoya, mais aussi des pancartes explicatives.
Très bien, comme ça au moins on pourra avoir toutes les explications directement sur place. Allez, je vous propose de faire la première pause musicale dans cet épisode de Cheminons dans la transition. Donc pour rappel que cette émission est complètement créée par tous les deux, les choix musicaux, les pauses musicales également. Qu'est-ce qu'on écoute pour cette première pause musicale les amis?
Nous, on écoute donc Aux arbres citoyens.
Mais oui, c'est ça, Aux arbres citoyens de Yannick Noah. Artiste relativement engagé, on a souvent une image de Yannick Noah, un peu d'un artiste voilà, qui aime bien faire la fête, qui bouge, etc. Mais qui a eu aussi plusieurs morceaux, plusieurs chansons qui parlent de sujets différents, mais qui est un artiste relativement engagé aussi. On écoute le morceau Aux arbres citoyens de Yannick Noah.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses. We'll be right back.
Yannick Noah aux Arbres Citoyens. Vous êtes toujours dans Cheminons dans la Transition, l'émission de l'IGET sur les ondes de Radio Fil de l'Eau, donc un partenariat qui s'est créé entre Radio Fil de l'Eau et l'IGET, l'association Les Jourdains en Transition. Qu'on commence à connaître du côté de Lille Jourdain, qui commence à être bien en place et bien reconnu, et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt rassurant aussi que voilà que l'on parle de cette association. Donc il se passe plein de choses, la newsletter, donc comme annoncé en début d'émission où je me suis planté, la newsletter sera bien là. N'hésitez pas à suivre l'IGET, que ce soit sur les réseaux, sur le site internet, on a tout ce qu'il faut, on retrouve tout ce qu'il faut. Donc en première partie d'émission, voilà, vas-y Sylvain, pardon.
Tu n'as pas besoin de t'excuser, quand je t'en ai parlé, moi aussi je croyais qu'on n'aurait pas de newsletter.
D'accord, ben voilà, bon, ben ça va. Donc c'est pas de ma faute. Non, je rigole. Donc c'est la faute de Silvano. Non, c'est vrai. Non, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on vous envoie directement lire la newsletter si vous n'y êtes pas abonné. Et cliquez, abonnez-vous, vous aurez toutes les infos comme ça. Donc voilà, en première partie d'émission, on a donc donné les 7 cycles de l'eau. Voilà, on a parlé de rivières volantes, on a parlé de plein de choses qu'on connaissait pas. Voilà, je le rappelle parce qu'on connaît l'importance des arbres au vu de l'oxygénation de la planète, mais c'est vrai qu'on connaissait pas forcément. Même si on en parle de plus en plus, les arbres, les haies quand même pour séparer les champs, ce genre de choses. Bah, ces dernières années, on en a quand même pas mal entendu parler un petit peu plus en tout cas. Mais voilà, je vais me tourner vers toi, Cinzia, parce que t'as pas mal de sources aussi à nous donner, tout ce dont on a parlé avant, d'où est-ce que ça vient, peut-être nous aiguiller si on veut aller en savoir un petit peu plus sur le sujet.
Alors, j'ai découvert la Saint-Tropie à travers un atelier proposé au Jardinodrome.
D'accord.
Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour remercier Écosserre qui a un mécénat pour 3 ans avec le Jardinodrome et qui permet donc, du coup, d'avoir des ateliers pédagogiques, entre autres avec le bosquet fantastique. Mmh. Et c'est justement, donc, quand j'ai découvert la Saint-Tropie, c'est avec Ludo du bosquet fantastique qui nous avait expliqué ce système de jardinage, ouais. Je ne sais pas trop comment l'appeler, ce n'est pas vraiment du jardinage. Et donc, il est venu dimanche dernier nous expliquer les 7 cycles de l'eau.
Okay.
Et donc, j'ai assisté à cette rencontre. Et j'avais aussi suivi avant une vidéo qui s'appelle « Les 7 cycles de l'eau » d'Hervé Covès.
D'accord.
Que l'on peut retrouver tranquillement sur les sites de vidéos. Et puis, du coup, après, je me suis acheté le livre « Bienvenue en Saint-Tropie » d'Anaël Théry. Voilà.
D'accord. C'est le livre que tu as là, ouais, nous voyons là. Et... Bienvenue en Saint-Tropie, il s'appelle, c'est ça ?
Oui, Bienvenue en Saint-Tropie. Et donc, c'est une première en France, je crois, d'avoir un livre qui traite réellement de la Saint-Tropie. Généralement, on a des livres qui vont te parler de la forêt-jardin, mais... Vraiment le système Saint-Tropie.
Oui, ça apparaît du coup dans le livre forcément à un moment donné, mais c'est pas spécialement là-dessus quoi.
Voilà.
Fait. Ok.
Et du coup, alors je l'ai pas encore lu en entier, mais je le trouve vraiment très très bien expliqué et vraiment passionnant. Pour ce que j'en avais lu à l'époque.
Justement, j'allais te demander, parce que tu le trouves bien expliqué, justement pas trop forcément complexe pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet ou qui n'en a jamais entendu parler, admettons, est-ce qu'il peut quand même, tu penses, se lancer dans la lecture de Bienvenue en Saint-Tropie,
oui.
Ce ne sera pas trop complexe, trop de termes, admettons, compliqués ou spéciaux
Non, alors d'abord, il peut lire le livre, mais il peut aussi venir au Jardinodrome.
Mais bien sûr, c'est clair.
Pour apprendre avec nous comment on vit la Saint-Tropie dans ce petit bout de jardin. Donc alors le principe de la Saint-Tropie en gros,
oui.
C'est d'abord on va planter énormément parce que l'idée c'est de couper au fur et à mesure comment ils appellent ça déjà le terme, j'ai plus le terme mais donc l'idée c'est de couper un peu et puis de mettre ça au sol pour que ça nourrisse le sol.
Okay.
Et parce qu'en fait il faut savoir que un sol qui est bien couvert et qui a des hautes herbes, il va garder ça c'est toi qui as les chiffres,
oui,
Sylvano.
Donc un sol qui est non taillé va se réguler tout seul à 19,5 degrés Celsius.
Ok, ah oui, d'accord, ouais. Donc même malgré des grosses chaleurs extérieures, si on laisse l'herbe faire à sa guise, si on laisse pousser l'herbe ou autre, d'ailleurs, mais à pousser à sa guise, il va s'auto-réguler aux alentours de 19,5 degrés. D'accord, ok, ouais.
Après, si on coupe à 10 cm, il fera 24,5 degrés Celsius.
Ok, ouais, donc on voit que plus on coupe de toute façon et plus il perd en fraîcheur.
Et donc ça peut aller jusqu'à 40 degrés Celsius quand il est complètement nu.
Ok, ouais, donc on voit la différence quand même. Mais c'est des choses qu'on remarque aussi nous tout bêtement, mais quand on voit enfin, l'ombre que peut apporter les arbres dans une allée, dans une ville, effectivement quand t'es sous l'arbre c'est cool, il y a de l'ombre et t'as moins la chaleur, même au niveau de la température des sols, au niveau de plein de choses, de toute façon c'est... Donc laissons un peu... Alors, effectivement, si tu veux profiter de ton extérieur, de ton jardin, mais de faire attention à ce genre de choses parce que ça joue vachement la hauteur des herbes, la hauteur des plantations sur le terrain, quoi.
Oui, et puis si on a un grand jardin, on peut favoriser un endroit où on laisse l'herbe et puis couper là où on a juste besoin.
C'est ça.
Parce que en fait, c'est pas qu'une histoire de température, c'est aussi des conséquences que ça a sous la vie, sous le sol.
C'est clair.
C'est-à-dire que les vers de terre et autres petits insectes, à 40 degrés, ils ne vont pas vivre des masses. Voilà. Si on leur laisse du 19 degrés, alors là, ils peuvent plus facilement
vivre. Et on connaît l'importance d'un ver, par exemple, aussi justement dans un jardin, et au sens large des choses, quoi. Les vers de terre, les insectes, la vie qu'il y a sous terre, en fait, on connaît l'importance également de tout ça, quoi.
Complètement.
C'est hyper important.
C'est hyper important. Et puis, du coup, si on laisse aussi... des herbes un peu hautes, et ben on va avoir les papillons, on va avoir les abeilles, on va avoir tous les insectes qui vont pouvoir aller butiner un peu. Et ça aussi, ils ont besoin d'endroits. Parce que si on rase tout le temps, d'où ils peuvent...
Ben oui, qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pareil, c'est un échange. Pas mal de gens dans la tendance actuelle ont peut-être aussi tendance à l'oublier, l'importance de cette cohabitation, justement, entre les insectes qui sont sous terre, les insectes volants, la pollinisation, ce genre de choses. Ils ont besoin de plantes, en fait, tout simplement. Ils ont besoin de plantes, de fraîcheur, de les grosses chaleurs. Nous ne sommes pas les seuls à les subir, justement.
Oui. Et puis, alors ça, c'est mon point de vue, mais je crois vraiment qu'on doit trouver l'équilibre parce que tout le monde a sa place sur cette terre, sur cette toile de la vie, et du coup, c'est comment on arrive à vivre ensemble.
Articuler tout ça, ouais.
Et pas que nous, l'homme, on se positionne en être supérieur qui aurait tous les droits sur toute la nature. La situation actuelle fait qu'on ne peut plus penser comme ça.
C'est clair. Et puis quand on parle de vivre ensemble, ce n'est pas contre humain. Ce n'est pas contre humain aussi.
Non, c'est vraiment avec toute la nature, bien sûr.
Parce qu'on est quand même arrivé en dernier quasiment sur cette planète.
Oui.
Donc il serait peut-être temps de partager un petit peu aussi. On n'est pas les seuls. Ouais. On n'est pas les seuls. Donc bienvenue en... J'ai perdu le mot, pardon.
Saint-Tropie.
Bienvenue en Saint-Tropie, pardon. Donc voilà, c'est celui que tu lis actuellement, donc Cinzia. Rendez-vous aussi, n'hésitez pas à vous rendre au Jardinodrome. Contactez Ligette pour savoir quand est-ce que vous pouvez passer, quand est-ce que vous y allez, quand est-ce qu'il se passe des choses aussi, parce qu'on le rappelle, mais Ligette est une association très dynamique qui propose aussi pas mal de choses, que ce soit de la découverte, de la participation, énormément de choses, soit les ateliers, les fresques qui se font tout au long de l'année à différents endroits sur le territoire, mais également voilà, sur place, que ce soit au Jardinodrome ou autre.
Alors pour le Jardinodrome, je sais qu'un dimanche par mois, le deuxième dimanche du mois,
d'accord,
il y a un atelier.
Okay.
Le mardi matin de 10h à midi, il y a du nettoyage du jardin. Et puis pendant l'été, le mercredi soir, mais je ne sais plus si c'est 18h ou 19h,
okay,
il y a l'apéro jardin.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de travailler ensemble et de boire un coup. Enfin voilà.
Bah ouais, que des bonnes choses quoi.
Que des
bonnes
choses.
Évidemment, comme d'habitude, du côté de l'IGET. Donc on le rappelle, le site internet IGET, IJET. Et puis de toute façon, vous trouvez tout ce qu'il faut en tapant IGET sur internet. C'est ça, l'IGET, les Jourdains en transition. Vous trouverez tout ce qu'il faut, de toute façon les réseaux sociaux également, on sait qu'on peut vous suivre également dessus pour avoir là un petit peu les actus, les choses qui se font, avoir toutes les informations pour pouvoir vous rejoindre, vous suivre, se renseigner un petit peu. Voilà, si on veut, si gentiment on commence à se poser des questions, on veut faire un premier pas, n'hésitez pas, je pense que c'est une association bien placée pour vous répondre pour ce lancement là.
Complètement, oui. Alors pour aller plus loin dans le thème de l'eau, il y a eu aussi trois superbes émissions sur Arte qui s'appellent H2O, l'eau, la vie, la nature et nous.
Okay.
Ça c'est le titre de l'émission. Ludo a conseillé un livre que du coup j'ai pas encore lu qui s'appelle Planter un arbre et créer une forêt d'Ernest Zucker.
Okay.
Et puis il a parlé aussi des vidéos d'Aurore Stéphane de l'association SIST-X.
Ok, d'accord.
Qui visiblement parle de l'utilisation de l'eau dans les minéraux, des ressources naturelles, enfin des choses comme ça, de l'abus par rapport au téléphone. Il me semble que moi j'avais vu une émission d'elle, enfin une vidéo d'elle où elle parlait en fait des minéraux qu'on allait chercher pour pouvoir aller faire notre téléphone et du coup du gaspillage qui allait par rapport à ça. Bien et voilà comment ça.
Et oui, comment ça évolue. Et c'est pas toujours très joli aussi. C'est pas toujours très joli. Mais si vous voulez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à réécouter déjà cette émission, voilà, pour avoir plein de sources, plein d'endroits où aller si vous avez raté les premiers. À vous rapprocher encore une fois, je le dis, de l'IGETTE pour savoir un petit peu plus. Et voilà, du jardinodrome, de tout ce qui s'y fait pour pouvoir aller voir tout simplement sur place aussi. Sur place aussi, comment ça se passe. Donc un été à perspective avec les apéros. On le rappelle, les apéros jardin le mercredi soir. On sait plus, c'est 18 ou 19 heures. Rendez-vous sur internet, vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Deuxième dimanche du mois aussi au jardinodrome, donc pour voir, ben voilà, il y a des ateliers, des choses qui se font. Et après, on le rappelle, tout au long de l'année, plein de choses du côté de l'IGETTE. Chilcia, Silvano, merci beaucoup encore à tous les deux pour cette seconde émission donc de Cheminons dans la transition. Ce partenariat entre Radio Fil de l'eau et l'IGETTE, l'association Lille Jourdain en transition. Merci beaucoup à tous les deux. On va terminer en merci. Musique. Qu'est-ce qu'on écoute pour finir cette émission?
On écoute les Pang. Alors, Pang, c'est des rappeurs bio belges.
D'accord.
Et malheureusement, ils ne sont plus en activité. Mm-hmm. Mais j'aimais vraiment ce qu'ils faisaient parce que c'était des rappeurs qui étaient au service des associations.
D'accord.
C'est-à-dire que là, dans la chanson qu'on va écouter, il soutenait un jardin collectif du côté de Etterbeek, non ?
Je crois que oui, mais en tout cas, c'est en région bruxelloise.
Oui, en région bruxelloise. Enfin, de toute façon. Pour...
Ah, et petit message.
Dire, je suis pas sûr que la géographie bruxelloise soit la plus connue dans le coin. J'ai vu que c'était ça que t'allais dire. Je suis relativement d'accord. Je suis pas sûr qu'on connaisse bien la banlieue de Bruxelles.
Oui, voilà.
Mais je ferais bien remarquer que oui, on dit bien Bruxelles et non Bruxelles.
Oui,
ah, mais ça c'est toujours le français avec le X. Il aime bien. Il va à Chamonix. Il va à Bruxelles.
Et non,
on dit
Bruxelles.
Et donc là. On dit Auxerre.
Oui, voilà.
Et du coup, là, c'était pour soutenir un jardin collectif, mais ils ont fait plein de chansons hyper rigolotes sur le vermicomposteur, sur... Il y a quoi encore? Les chicatés.
D'accord.
Sur les habitats légers, sur... Donc voilà, ils ont soutenu comme ça plusieurs associations de Belgique. Et ils ont beaucoup d'humour et
ils ont gardé l'essence même du rap, hein, qui est de s'engager. Ce n'est pas uniquement un engagement forcément politique, mais ça peut être un engagement sous toutes ses formes.
Oui.
Et là, on le ressent parce que le morceau s'appelle Les potes âgés, en quatre mots, les potes. Voilà. Et donc ils sont accompagnés de Monkey Mix, les Pang, sur ce morceau là donc il s'appelle, je répète, Les potagers en quatre mots, bien évidemment.
Et je vous conseille aussi de regarder les vidéos sur YouTube parce que les clips valent le coup d'œil.
c'est
humour belge à fond, quoi.
Ben, ça roule. Merci beaucoup Chilcia, merci beaucoup Silvano. Donc on se retrouve le mois prochain également pour ce troisième épisode. Là c'était le second de Cheminons dans la transition, cette nouvelle émission sur les ondes de Radio Fil de l'eau. On se retrouve dans un mois et on termine donc avec les potes âgés, les Pang et Monkey Mix. À dans un mois, merci beaucoup à tous les deux, bonne journée.
Merci, au revoir.
Chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Joe fait pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. connexion. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête, ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des potimarrants. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté. TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP, mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le bois, mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes la chasse et t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses rouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui à la campagne. À Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, 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 alors rejoins le toilette sèche pour moi.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler, mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer, planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires, je cultive la terre. Me shoot au nucléaire, mec je connais les affaires. Big up aux fruits, légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dingues de Shaquille. Dimanche je pile mon tracteur en mode gangster. La tête K.A. à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde ta carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté.
Yo, bang, bang, monkey mix, MC Grenadier, MC Click 2012. Yo, ya, Bruxelles, Belgique.